Je m'appelle Sarah Bellé, je suis chargée de mission au CRACS, c'est le Centre Régional d'Appui en Cohésion Sociale, qui est un organe au sein du CBAI. On est chargé d'évaluer et d'appuyer les associations du dispositif pour primo-arrivants de la région bruxelloise. Et donc ça consiste à accompagner les associations dans leur réflexion, dans leur suivi du dispositif et de la mise en place de la politique d'accueil. Et à côté de ça, on fait aussi de l'évaluation et de la recherche qui est en lien avec comment est appliqué le parcours d'accueil francophone à Bruxelles. Donc cette année, en 2021, on fait un rapport qui est un rapport d'impact. Donc on essaie d'évaluer dans quelle mesure le fait d'avoir suivi le parcours d'accueil aide les primo-arrivants dans leur processus d'installation à Bruxelles. C'est quelque chose un peu d'inédit parce qu'on a dû faire une enquête. Et donc c'est pour la première fois que l'un des rapports du CRACS s'intéresse au public et lui donne la parole. Et donc l'idée, c'était de faire une enquête, une énorme enquête, où on va interroger les personnes qui ont suivi le parcours d'accueil pour recueillir leur avis sur cette politique, voir ce qui leur a plu, ce qui leur a été utile, voir comment ça les a aidés dans leur installation, dans leur manière de voir la société, de faire partie de la société et de s'installer à Bruxelles. Et donc on a réussi à interroger 500 personnes, majoritairement des arabophones, mais il y avait aussi pas mal de francophones et d'anglophones. On a recruté une équipe d'enquêtrices et d'enquêteurs. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en fait, pour la première fois, ce rapport d'évaluation et de recherche s'est fait un peu de manière co-construite, c'est-à-dire qu'on s'est mis autour de la table avec l'ensemble des acteurs du dispositif, que ce soit l'administration de la COCOF, les bureaux d'accueil ou alors aussi des opérateurs linguistiques et aussi des académiciens, des chercheurs qu'on a consultés ponctuellement. Et donc ça a permis en fait de voir ensemble qu'est-ce qu'on cherche à savoir, quels sont les objectifs poursuivis par cette politique-là, mais aussi les objectifs opérationnels que les bureaux d'accueil souhaitent atteindre. Et 500 personnes, c'est quand même énorme. C'est chouette quoi, de recueillir autant de témoignages. Donc depuis que le parcours d'accueil existe, donc il a été mis en place en 2016, les bureaux d'accueil ont ouvert leurs portes, ont commencé à accueillir le public. Ils ont accueilli entre 11 et 12 000 personnes. Mais toutes ces personnes-là n'étaient pas éligibles pour faire ce parcours d'accueil. Du coup, sur ces 11-12 000 personnes, il y a 9 000 personnes qui ont été vraiment admissibles et qui ont pu entamer leur parcours d'accueil. Et sur ces 9 000 personnes-là, on a recensé plus de 2 000 qui avaient clôturé leur parcours. Soit parce qu'ils ont fait le parcours et ils ont été jusqu'au bout et reçu une attestation qui le prouve, soit parce qu'ils ont interrompu pour une raison ou une autre et n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et donc, sur ces 2 000 dossiers qui ont été clôturés, nous, on a sélectionné tous ceux qui étaient susceptibles de parler soit l'arabe, soit le français, soit l'anglais, parce que c'était le seul langue de contact qu'on pouvait se permettre pour faire cette enquête. Et du coup, on est arrivé à 1800 personnes qu'il fallait après contacter. Et la grande difficulté qu'on a eue pour contacter les gens, c'était en fait le numéro de téléphone plus disponible, plus attribué, et donc il n'y avait plus moyen de les joindre. Donc c'est pour ça qu'on est passé en fait de 1800 personnes à juste 1000 qui ont pu vraiment être contactés et à 700 qui ont donné leur accord et à 500 qui ont finalement participé à cette enquête. En fait, ce rapport, pourquoi il vient à ce moment-là, d'ailleurs parce qu'on avait des fonds qui le permettaient, mais aussi parce qu'en fait, on s'est dit, 5 ans après la mise en place de cette politique, les pratiques se sont stabilisées. Au début, ben voilà, les papas venaient d'ouvrir leurs portes, donc il fallait le temps qu'ils s'approprient le dispositif, etc. On attendait aussi qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui soient sorties du parcours que pour pouvoir aller les interroger. Et aussi, ça vient à un moment où l'entrée en vigueur de l'obligation pointe son nez. Et donc, on s'est dit, c'est le moment d'évaluer le parcours d'accueil tant qu'il est destiné à un public volontaire et qu'il faudrait sans doute refaire l'exercice quand ce sera un parcours d'accueil destiné à un public obligé. Ce qui est inédit, c'est parce que dans le CRACS, on a eu tendance, à chaque fois qu'on faisait un rapport d'évaluation ou de recherche, à donner la parole aux associations, à donner la parole aux travailleurs de première ligne. Mais jamais on a pris la peine en fait, d'aller voir comment cette politique est vécue par la population pour laquelle cette politique est destinée. Donc je trouvais que c'était super important de le faire, mais en même temps, il fallait attendre que ce soit le bon moment pour le faire. C'est important de remonter la voix des premiers concernés et premières concernées, parce qu'on ne pourrait jamais répondre à la question de est-ce que ce parcours sert à quelque chose? Est-ce que la manière dont il est mis en place et appliqué est la bonne? On ne peut pas y répondre si on ne demande pas aux gens qui les ont vécus. Mais au-delà de cette politique de parcours d'accueil, l'idée c'était aussi de savoir comment tout ça s'intègre finalement dans la manière dont ils s'installent à Bruxelles. Ce qui m'a vraiment beaucoup touchée lors de cette enquête, c'est les retours très positif des personnes qu'on a interrogées. Ils s'y attendaient pas, ils se disaient, ça fait 5 ans, parfois même beaucoup plus longtemps qu'on est à Bruxelles, personne n'est venu nous demander comment ça va. Personne n'est venu me demander comment s'est passée ton installation à Bruxelles. Est-ce qu'au niveau du logement, tout se passe bien? Est-ce que tu es satisfait de ta situation? Finalement, on est là, on vient, on prend leur temps pour aller récolter des informations qui nous permettent d'évaluer cette politique. Mais aussi, on leur donne finalement l'occasion de s'exprimer et de venir déposer aussi leurs ressentis et leur vécu par rapport à ça. Une interview durait entre 45 minutes et une heure. Les thématiques qu'on a essayé de viser, c'était d'abord la situation de vie des gens, le logement, la santé, la qualité de vie, l'accès aux soins de santé, les services, etc. Il y avait aussi la question de l'activation des droits qui revenait un peu tout au long du questionnaire, savoir si les gens ont pu accéder à certains droits comme le chômage, obtenir la nationalité par exemple, ce genre de choses. On avait aussi des thématiques relatives à comment ils se projettent en Belgique. Est-ce qu'ils sont sereins pour leur futur en Belgique? Est-ce qu'ils n'ont pas peur aussi que leur titre de séjour ne soit pas renouvelé? Enfin voilà, ça c'est par rapport à comment ils se projettent et comment ils se voient en Belgique. On avait aussi toute une série de questions sur la situation socio-professionnelle, parce que l'un des objectifs et des préoccupations des papas, c'était de savoir que deviennent les personnes qui sortent du parcours, où est-ce qu'elles sont. Et alors on voulait savoir aussi combien étaient en emploi, combien ont suivi des formations une fois qu'ils sont sortis du parcours, etc. Donc on essayait un peu de voir aussi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de précarité, quoi, que l'emploi ne soit pas vu comme une espèce de sortie de la précarité, parce que c'est faux, on peut être en emploi et être précaire. On avait aussi une série de questions sur la langue, voir un peu est-ce que la maîtrise du français a évolué et aussi est-ce que le parcours d'accueil y joue pour quelque chose à travers l'offre de formation qu'il propose. Et aussi, il y avait une partie qui était un peu plus compliquée à aborder à travers une enquête quantitative par téléphone, mais qui était relative au soutien social, à la participation dans la société. Est-ce que les gens sont isolés? Est-ce qu'ils ont des gens sur qui ils peuvent compter? Ils ont un petit réseau ici en Belgique ou à l'étranger? Qu'est-ce qui les intéresse dans la société belge? À quoi ils s'intéressent comme thématique? Aussi, il y avait une question qui était un peu touchy, on va dire, mais c'était sur la confiance dans une série d'institutions, quoi. C'est compliqué de demander à des gens dans quelle mesure ils font confiance à une série d'institutions pour lesquelles on présuppose qu'il y a forcément eu à un moment ou à un autre de la violence, s'il y a eu interaction, que ce soit la police, que ce soit le CPS, que ce soit la justice, que ce soit l'Office des étrangers. Donc il faut vraiment beaucoup de tact et l'amener de manière... voilà. Mais bon, tout au long du questionnaire, bien évidemment, les gens qu'on interrogeait avaient la possibilité de ne pas répondre s'ils le souhaitent. Donc ce qui paraît vraiment de manière très claire tout au long de notre analyse, c'est que ce soit la langue ou la nationalité joue énormément pour être en emploi. Si le but premier de la politique, c'est de tendre vers davantage d'autonomie et que cette autonomie passe par le fait d'accroître la participation dans la société, la participation économique, la participation culturelle, donc si on s'arrête juste sur la participation économique, c'est-à-dire s'insérer économiquement, avoir un emploi, ben là on voit que les personnes qui ont réussi à obtenir la nationalité belge ont plus de chances d'être en emploi. C'est un résultat incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, on faisait tout pour que les personnes qui migrent en Belgique aient la nationalité pour qu'ils s'intègrent. Maintenant, on fait tout pour qu'on les intègre avant de leur donner la nationalité. Or, du coup, ces résultats-là montrent que, en fait, c'est pas la bonne logique qui doit être adoptée. Donc c'est une logique où on doit peut-être d'abord donner aux gens la nationalité, vraiment comme citoyens, leur donner tous les droits pour qu'après ils puissent entamer leur processus d'insertion et d'intégration dans la société. Et aussi la langue. La langue, vraiment, c'est quelque chose qui a un poids et un enjeu majeur. Que ce soit dans l'obtention de la nationalité, bien évidemment, il faut prouver qu'on maîtrise une des langues nationales, que ce soit pour être en emploi, que ce soit pour améliorer sa qualité de vie, améliorer l'accès aux services et aux soins de santé. Nous, à la fin des entretiens, on a eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient poursuivre leur apprentissage du français, mais qu'avec le A2, ils étaient incapables d'aller dans des structures, dans des associations pour s'inscrire, quoi. On a aussi beaucoup de demandes par rapport à des démarches administratives, etc. Où est-ce que je peux aller pour quelqu'un m'aide pour renouveler mon titre de séjour, etc. Donc ça reste aussi dans l'accompagnement social finalement. On voit que finalement les outils qu'on donne aux primo-arrivants, qui ne sont pas tous armés de la même manière, hein. Il y en a qui ont accès à l'information, qui sont déjà autonomes quand ils arrivent en Belgique, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Ce qui manque aussi, c'est des moments où on s'occupe plus d'eux. Ils ont fait par exemple référence à un module qui se fait dans l'un des bureaux d'accueil, qui s'appelle Confiance en soi. Et donc ils se sont dit, ah bah tiens, on en a plus besoin, quoi. Avoir des moments où on se pose, où on puisse extérioriser, prendre plus davantage confiance en nous, etc., travailler sur nous, avant d'aller étudier l'histoire de la Belgique, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent, surtout des personnes qui sont réfugiées, avec des traumas, qui viennent de guerre, qui ont un parcours terrible. Et en fait, psychiquement, ils ne sont pas disponibles pour venir savoir que voilà, la Constitution 1831 et tout ça. Mais en fait, au-delà du parcours d'accueil, ben, y a d'autres barrières auxquelles les gens font face. Il y a d'autres formes de discrimination, que ce soit pour accéder à un logement, à un emploi, etc. Ou même devenir indépendant. Quand tu es réfugié, ce n'est pas évident d'obtenir des prêts. Et ça, on ne s'y attaque pas, quoi. C'est comme si l'intégration était finalement juste une responsabilité individuelle des primos qui doivent venir suivre 50 heures de citoyenneté et que c'est bon. Mais à côté de ça, ils ne s'attaquent pas à d'autres problèmes de discrimination et de racisme qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus systémiques, quoi. Mais à côté de ça, il y a d'autres histoires un peu plus happy ending, hein. Il y a des gens quand même qui parviennent finalement à ne pas être déclassés et à avoir quand même une installation qui soit réussie, quoi. On va dire ça comme ça. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est plus rare. Parce que ce n'est pas facile. Quand on vient déjà avec des compétences, on vient déjà avec un vécu, avec des expériences qu'on ne peut pas transposer parce qu'on ne reconnaît pas ces qualifications, parce qu'il y a des procédures administratives qui sont lourdes pour qu'on puisse obtenir des équivalences de nos diplômes et des choses comme ça, et parce qu'il y a aussi de la discrimination. Même si tu as beau réussir à avoir une équivalence de ton diplôme, l'employeur il va se dire « Oui, non, mais ce diplôme a été obtenu à l'étranger, il ne vaut pas la même chose que s'il avait été obtenu en Belgique. » Donc c'est très très rare. Donc souvent, oui, que ce soit les primo-arrivants ou les migrants de manière plus large, subissent un espèce de déclassement professionnel parce qu'ils n'exercent pas dans les mêmes positions que ce qu'ils exerçaient au pays d'origine ou au pays de provenance. Et ça prend du temps, ça prend des années avant que finalement ils parviennent, pour ceux qui réussissent, à retrouver le même niveau de vie et le même niveau de ressources que ce qu'ils avaient au pays d'origine. Je me reconnais, parce que moi-même je suis migrante. Ça va faire 10 ans à Bruxelles, enfin en Belgique, et j'ai toujours l'impression d'être de débarquer, quoi. Alors moi, j'ai grandi au Maroc, et donc je suis venue à 17 ans. Et donc c'était pas facile, hein, de laisser la famille, de laisser ses repères, son réseau, et venir se retrouver ici isolée, devoir tout recommencer, se faire des amis, qui soient pas racistes, bien évidemment, qui veulent bien de toi, et de se faire une place. Et d'apprendre comment fonctionne la société. Recevoir plein de courriers et tu comprends rien. Trop de démarches, trop de paperasse. Et donc tout ça arrive à s'en sortir. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais je suis privilégiée parce que je suis venue en ayant la nationalité belge, parce que mon père est belge. Je suis venue en parlant parfaitement le français parce que mon beau-père est français. Et je suis venue pour faire des études universitaires. Et je me dis, et j'ai quand même mal vécu. Et je continue un peu de mal le vivre aussi, ce déracinement. Et je me dis, si c'est déjà dur pour moi, avec tous les privilèges que j'ai, comment ça peut être pour d'autres personnes qui n'ont pas ces privilèges-là? Je m'identifie à eux, mais en même temps, je sais à quel point je suis privilégiée de par ma position. Mais ça ne m'empêche pas de dire « on » tout le long de l'entretien.